philosophie de l'activité artistique par le père Philippe à Saint-Châtain le 23 juin 1989.
Nous avions posé la question pour essayer de préciser qu'est-ce que c'est que le travail. Alors, exercice pratique. Quand vous êtes mobilisé pour le travail, réfléchissez philosophiquement à ce que vous faites. Et au retour, vous faites une petite dissertation sur le travail. N'importe quel travail. Le travail implique un devenir. Ça, je crois. Il implique un devenir. Pourquoi implique-t-il un devenir? Parce qu'il implique une coopération avec une matière. C'est dans ce sens-là que la création n'est pas un travail. Elle est un super travail. Elle est un travail divin qui n'est plus un travail. Oui. Donc, c'est un devenir. Tout le travail se fait dans un devenir, se fait donc dans une lutte. J'essaie de voir les éléments du travail. On l'a déjà vu, mais je reprends pour que vous arriviez à bien saisir. C'est un devenir qui se fait donc dans la lutte. Tout devenir est entre deux contraires et implique un sujet. Donc, coopération avec la matière, c'est le sujet. C'est la matière qui pâtit. Et on passe d'un contraire à l'autre. Et donc ça se fait toujours dans une lutte. Cette lutte peut aller très loin, on y reviendra là-dessus, tout à l'heure. Mais ça doit être toujours une coopération entre l'homme et la matière. La matière prise là de façon très, très générale, tout ce qui est capable de transformer. C'est comme ça du pain, c'est ce que Marx appelle la matière. Tout ce qui est capable de se transformer. Et c'est juste. Parce qu'il fait une philosophie de la matière à partir du travail. Pour nous, la matière prend d'autres significations. Mais c'est juste de dire que notre premier sens de la matière, c'est à partir du travail. Notre première conception du travail, vous voyez, selon l'ordre génétique. Génétiquement, notre premier sens de la matière, c'est à partir du travail. On modifie une matière, on transforme une matière. Et peut-être même ça se fait dans la lutte. C'est important de voir que le travail est que la lutte est congénitale au travail. Alors c'est plus ou moins lourd, plus ou moins laborieux, plus ou moins difficile. La lutte est plus ou moins forte, la coopération est plus ou moins grande. Il y a du plus et du moins, des extrêmes. Le travail est un devenir, donc dans une matière, un devenir qui vient de l'homme. La source du travail, c'est l'homme. C'est la volonté de l'homme et son intelligence. Normalement, c'est l'idée. Un homme qui travaille la matière, il travaille la matière parce qu'il a une certaine inspiration, une certaine idée. Mais cette idée, c'est peut-être pas lui qui l'a eue en premier, peut-être un exécutant. Et le travail permet cette division du travail. C'est la fameuse question, est-ce qu'il est légitime qu'il y ait une division du travail? Vous savez bien, avec le marxisme, ça devient très important, cette question-là. La division du travail. Or, il est légitime qu'il y ait une division du travail. Pourquoi? Parce que le travail est un devenir. Tout devenir permet une division du travail. Mais la division du travail doit être en vue d'une efficacité plus grande. Si la division du travail fait l'inverse, il faut la supprimer. Mais si la division du travail permet une efficacité plus grande, alors très bien. C'est pas un non-sens, la division du travail. Pourquoi? Parce que le travail implique un devenir. Ce devenir implique une orientation, une idée directrice. Cette idée directrice provient de celui qui est inspiré, qui a une idée, un projet dans la tête, un plan. Ça, c'est l'idéal qui dirige son travail. C'est pour ça que ce devenir du travail est un devenir, comprenez bien, humain. C'est l'homme qui, dans son intelligence et sa volonté, dirige le travail. Il dirige le travail parce qu'il veut réaliser telle chose. C'est pour ça que le travail est toujours en vue d'une œuvre. C'est ce que je vous avais dit. Il me semble, je dis il me semble, parce que je ne l'ai pas relu hier, que dans l'encyclique du pape sur le travail, il y a, encore une fois, le pape ne fait pas un traité de philosophie. Il fait une encyclique sur le travail pour montrer les deux dangers de la malformation d'une philosophie du travail, le libéralisme et le marxisme. Et c'est suffisant pour faire une encyclique. Vous savez, on ne nous donne pas une philosophie du travail. Ne disons pas qu'avec l'encyclique, on a une philosophie du travail. Non. On a un document très précieux. Exactement comme dans l'écriture, on a des remarques très intelligentes, puisqu'elles sont divines, sur le travail. On n'a pas une philosophie du travail. Tous ces éléments, on doit les étudier pour voir ce que ça peut nous apporter pour le travail. Vous voyez, ça ferait partie d'une tradition religieuse. Est-ce que la tradition religieuse est ennemie du travail? Eh bien non. La tradition religieuse reconnaît la grandeur du travail. Vous avez deux grands témoignages, l'écriture et les traditions monastiques. Et là, ce serait très intéressant à bien voir. Vous voyez, et je crois que si on fait une philosophie du travail aujourd'hui, il faut prendre ces deux grandes traditions. La tradition judéo-chrétienne, qui parle du travail, la tradition monastique. La tradition monastique qui, elle aussi, parle du travail. Donc vous avez là deux grands topics. Et ensuite, vous reprenez l'expérience humaine. L'expérience humaine du travail manuel. Partez du travail manuel. Prenez pas le travail du comptable. Parce que c'est déjà très élaboré. Prenez pas le travail du philosophe. C'est très élaboré. Prenez pas le travail de l'avocat, c'est très élaboré. Prenez le travail dans ce qu'il a de assez brutal, le travail manuel. Là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Maréchal Ferrand, hein. Menuisier, laboureur, c'est le travail. Autant que possible, avoir une certaine expérience. On a tous l'expérience du travail. Faire des dictées et en copier, en travailler. Travail bête, écouter un cours, bêtement, en disant on attend que ça finisse. Travail bête, un cours, parce qu'on travaille intelligemment quand on coopère au cours. Alors là, on travaille intelligemment, mais c'est un travail intellectuel. Donc, le travail demande d'être dirigé dans un sens qui est l'œuvre qui finalise. L'œuvre finalise. Et c'est ce qui, dans l'encyclique du pape, apparaît pas avec suffisamment de force. Au plan philosophique, hein. Dans la perspective du pape, c'est parfait, son encyclique. Mais au plan philosophique, on doit faire grande attention que toute la dimension de la finalité du travail n'est pas suffisamment montrée. Et dans la finalité du travail, vous avez l'œuvre utile, l'œuvre agréable. Et vous pouvez avoir des œuvres destructives. l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous avez le droit de faire n'importe quel produit? On ne pose pas assez le problème, alors qu'il y a un problème éthique là, et politique. Assainir, vous voyez, la finalité du travail. Donc, le travail demande d'être finalisé par l'œuvre, donc le travail demande d'être efficace. Et c'est en étudiant philosophiquement le travail que vous étudiez philosophiquement ce qu'est l'efficacité. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? Agens, agit, simile, simi. Le vieil adage, tout agent agit semblablement à ce qu'il est. Ça, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? L'efficacité, c'est transformer une matière. Transformer une matière de la manière la plus parfaite qui soit, en fonction de la mesure de cette transformation, qui est l'idéal qu'on a, en fonction de l'œuvre à réaliser. Donc, l'efficacité est la qualité propre du travail. Cette efficacité peut être dirigée de l'intérieur, elle peut être dirigée de l'extérieur. C'est là où on va voir la division du travail. Ça, c'est intéressant de faire la division du travail. On va le voir après. L'efficacité qui est en vue d'une œuvre, l'efficacité est mesurée par le temps, comme tout devenir. C'est normal qu'on mesure le travail. Il faut tant d'heures pour faire cette broderie. Pour des broderies bretonnes, il faut tant d'heures pour faire cette broderie. Il faut tant d'heures pour réaliser tant de briques. Il faut tant d'heures pour tailler cette pierre. Et vous mesurez l'efficacité par le point de vue du temps. Et l'efficacité est mesurée par le temps. Et comme ça implique un devenir, un mouvement, on comprend très bien que l'efficacité sera d'autant plus grande que le temps soit moindre pour réaliser l'œuvre. Oui, la rapidité est une qualité du mouvement. On comprend très bien ça. Et dans l'efficacité, c'est important. Mais il ne faut pas mettre la rapidité comme l'unique critère. Il faut que l'œuvre soit bien faite. Et si la rapidité massacre l'œuvre, alors c'est la finalité qui se venge contre l'efficacité. C'est cette lutte constante entre efficacité et finalité. Ça, c'est très très important. Parce qu'au plan philosophique, c'est quand même très intéressant de voir le premier analogué. Vous voyez, entre le point de vue de l'efficacité du travail et puis la finalité, l'œuvre. Si l'efficacité qui demande la rapidité, un des facteurs très très grands aujourd'hui, la rapidité dans le travail. Oui, le travail en série, en vue de la rapidité. Mais c'est intéressant de voir quels seront les facteurs légitimes de la division du travail. Quels seront les facteurs illégitimes de la division du travail. Quand on s'oppose à la division du travail, presque toujours, c'est en fonction d'un facteur illégitime qui intervient. Auquel on n'a pas fait assez attention, parce qu'il n'y a pas beaucoup de philosophie du travail, d'une véritable analyse philosophique du travail. Donc, la finalité, il y a la rapidité qui est du côté de l'efficacité, qui est mesurée par le temps. Il ne faut pas que la rapidité supprime la finalité, ou diminue la valeur de l'œuvre. L'œuvre dépend donc du travail, l'efficacité du travail. Le travail ne peut pas se définir uniquement par l'efficacité. L'efficacité qualifie le travail, mais n'est pas le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Le travail comme tel, c'est la modification de la matière, la transformation de la matière. Donc, puisqu'il faut transformer la matière, l'efficacité est présente dans le travail. Transformation de la matière en vue de l'œuvre. Le travail ne se définit pas par l'efficacité, puisqu'il va se définir par l'œuvre. C'est l'œuvre qui commande telle manière de travailler. C'est l'œuvre qui permet une rapidité plus ou moins grande. Et ainsi de suite. C'est l'œuvre qui mesure le travail, la finalité. Comme toujours, tout devenir, le travail implique un devenir, tout devenir est en vue du terme vers lequel on tend et dans lequel on se repose. Une fois que l'œuvre est faite, il y a un repos. On opposera facilement travail et repos. Celui qui se repose ne travaille pas. Pourquoi ? Parce que l'œuvre, qui est le terme du travail, quand l'œuvre est terminée, on se repose. C'est un élément très important, ça, le repos. Aujourd'hui, quand on ne voit plus l'œuvre, on a besoin de détente. Quand on voyait l'œuvre, on n'avait pas besoin de détente. C'est pour ça que dans la vie religieuse, on n'a pas besoin de détente. Parce que justement, on est toujours. L'œuvre qu'on fait, c'est quoi ? L'œuvre que vous faites, c'est quoi ? Le travail dans la vie religieuse, dans la vie apostolique, est ordonné à la sainteté. Et c'est ça qui donne le rythme profond, aussi bien de la vie intérieure que de la vie apostolique. Quand vous êtes mordu par l'efficacité pure, ah, alors à ce moment-là, ah, il faut vous reposer après. Il faut la détente. Ah, j'ai travaillé tellement. Ah, attention. C'est pas tout à fait normal. C'est très intéressant de voir ça, que le travail, quand on ne voit plus l'œuvre, demande une détente. Alors que quand on voit l'œuvre, l'artisan n'a pas besoin de vacances. N'a pas besoin de détente. Il rit quand on lui dit, il ne quitte pas son atelier. J'ai encore vu l'autre jour. J'ai demandé à un tailleur de pierre, alors vous prenez, quand allez-vous prendre vos vacances ? Il m'a regardé, des vacances ? Alors, avec leur terme, c'est bon pour les bourgeois. Un artisan ne se repose pas. Ou bien, il se repose, mais il n'a pas besoin de détente. Oui. Il se repose dans l'œuvre qu'il fait. Et c'est ça qui est très important. C'est quand on voit la philosophie de la détente ou la philosophie du repos, c'est très important de bien comprendre que le repos, quand l'œuvre est faite, on se repose. Donc le travail est ordonné. Et le travail implique l'idéal. L'idéal, le projet. Et ceci détermine le travail, l'oriente, donne au travail son rythme. Le rythme du travail provient du projet, provient de l'idéal. C'est lui qui doit harmoniser le travail. Et ça rend le travail intelligent. Le travail est spirituel par l'idéal. C'est qu'un artiste qui a son idée présente toujours à son travail est intelligent. Tandis que si vous êtes coupé de l'idéal et que vous n'avez plus qu'un travail d'exécution, votre travail est beaucoup moins intelligent. C'est le travail du manœuvre. Alors le travail travail, tu manœuvres entièrement, c'est le travail le plus bête qui soit. Ça reste un travail humain, mais c'est un travail le plus bête qui soit. Ça y vient, à l'armée. C'est arrêter l'exécution. On fait ça parce qu'on doit le faire. On vous demande à soi, pourquoi faites-vous ça? Parce qu'on doit le faire. Donc, comment voulez-vous que ce soit intelligent? Vous faites ce travail parce qu'on doit le faire. L'impératif catégorique qui vient là. Devoir travailler ne rend pas le travail intelligent. Ça moralise le travail. Or, le travail n'est pas en soi œuvre morale. Ça, c'est terrible. La moralisation du travail. C'est effrayant. Je dois faire ça. Ben, attention, quoi. Il faut bien reconnaître, hein. La moralisation du travail, elle existe même dans la vie religieuse. Or, le travail est finalisé par l'œuvre. Pourquoi travaillez-vous? Ah, je veux réaliser ça. Pourquoi suivez-vous tes cours? Ah, je veux comprendre. C'est la vérité que je cherche. Alors, je comprends, comme c'est dans un tunnel, vous dites, suivez parce que je dois y aller. Mais on doit sortir le plus vite possible du tunnel. Parce que c'est pas très, très, très astucieux. Oui, comme c'est... Qu'est-ce qui vient contaminer le travail? Posez-vous la question. Quand vous saisissez les éléments essentiels du travail au point de vue philosophique, qu'est-ce qui contamine le travail? Bien, je crois que la moralisation du travail a contaminé le travail. De façon terrible. Pourquoi aujourd'hui on n'aime plus travailler? C'est un fait. Et c'est ce qui paralyse l'économie. Est-ce qu'il peut arriver qu'un État se suicide et qu'une nation se suicide? C'est très très grave ça. Quand les hommes n'ont plus le goût du travail, n'ont plus l'amour du travail. On doit avoir l'amour du travail par l'œuvre. Parce que c'est ça qui finalise. L'œuvre est le bien. Donc on l'aime. Et parce que on veut bien travailler, on arrive à aimer le travail. Parce qu'on veut bien travailler. Mais c'est l'œuvre qui finalise. Donc, on travaille pour réaliser une œuvre. Vous écoutez un cours pour atteindre la vérité. Alors, vous voyez, dans la vie religieuse, la difficulté, c'est que vous assistez au cours par obéissance. Je sais bien, il y a des dispenses. Mais vous assistez à un cours par obéissance. Or, assister à un cours par obéissance, c'est moraliser votre travail intellectuel. Et en moralisant votre travail intellectuel, vous ne le rendez plus intelligent. Un bon religieux peut être bête. C'est désastreux pour la vie commune. C'est vrai, c'est pourquoi faites-vous ça? Ah, parce que je dois le faire, l'obéissance. Ah, parce que je dois le faire. Mais seule réponse. Donc, ça prouve qu'on n'a rien compris. Oui, on s'est reposé sur l'oreiller de l'obéissance. Ça peut être un oreiller. Très doux. Mais ça ne dure pas. Oui, ça ne dure pas. Parce que ce n'est pas entièrement naturel. Le travail est du facere, ce n'est pas de l'agere. Le travail est une activité propre de l'homme. Et donc il faut que le travail intellectuel, comme le travail manuel, ait sa finalité propre. Alors, momentanément, je comprends, momentanément, on vous demande de, je sais pas, de faire la vaisselle. La finalité, c'est pour avoir des assiettes propres au repas suivant. Parce qu'évidemment, si on ne lavait pas la vaisselle et qu'on brouillait les cartes, j'ai pas trop la garde de manger, surtout à la fin de la semaine. Ce serait pas très agréable. Ça. Alors on comprend, mais La vaisselle, c'est pour avoir des assiettes propres. Faudrait le rappeler de temps en temps. La vaisselle, c'est pour avoir des... Alors, c'est un acte de charité. Oui, c'est un acte de charité fraternelle. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même pour avoir une vaisselle propre pour le repas suivant. Vous voyez? Quelquefois, des personnes ont beaucoup de vaisselle. Alors, ils font la vaisselle une fois par semaine. Je connais des gens comme ça. Des tout petits ménages, une fois par semaine. On entasse. Vous voyez, ici, si on faisait la vaisselle une fois par semaine, on aurait une pile d'assiettes. Ça n'irait pas du tout. Alors là, c'est la division du travail. Parce qu'on pourrait très bien dire, je fais la vaisselle seulement quand j'ai plus d'assiettes propres. Pour nettoyer les assiettes. Non. Organisation. Et puis, l'obéissance. Et la charité fraternelle. Mais l'obéissance et la charité fraternelle ne doivent pas supprimer la finalité propre du facturé. Et qu'on aime le travail par la finalité. Donc, voyez bien, ça c'est très très important, ce qui fait que ce devenir du travail a quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est pas le devenir simple mouvement. C'est un devenir spirituel. Le travail demande d'être humain. Qui dit humain, dit intelligent et spirituel. Et qui dit humain, dit aussi volontaire. Donc ce devenir est volontaire. Je m'arrête quand je veux. Il est spirituel. Intelligent. Je sais ce que je fais. Et je sais en vue de quoi je le fais. Et si vous êtes uniquement un exécutant, vous avez le droit et le devoir de demander en vue de quoi vous exécutez. Et si on ne vous le donne pas, vous avez le droit de dire, vous n'avez pas le droit de me considérer comme un animal. Si l'homme avait revendiqué plus le point de vue de l'intelligence de son travail, n'aurait pas été condamné uniquement à exécuter d'une façon tyrannique. On a un devoir, on n'a pas le droit de travailler comme une brute. On doit travailler humainement. Et travailler humainement, c'est faire que le travail soit spirituel, intelligent, soit volontaire. On sache la finalité, l'œuvre. Sauf dans des cas très particuliers. Un secret. Quand vous travaillez pour des choses secrètes de l'armée ou de l'état-major de l'Église, un secret. On vous dit travaillez ça, on ne vous donne pas d'explication, mais la confiance. Travaillez-le. Alors, un tout petit secteur, hein, et puis travaillez ça. En vue de quoi? En vue de la béatification. Travailler sur la vie de Marthe en vue de la béatification. Ah, vous le savez, c'est déjà bien, mais vous voyez très bien de ne pas le savoir. On peut vous envoyer, ça existe, des services secrets dans l'Église. Dites-nous en conscience, pas le secret de la confession, hein, pas le secret de la direction, en conscience, ce que vous savez sur telle personne. On ne vous dit pas pourquoi. Vous demande au nom de l'obéissance du Saint-Père. Alors évidemment, vous devez respecter les secrets naturels. Le secret de confession, ça va. C'est bien évident. Et le secret de la direction. Et le secret naturel. C'est un ami. Alors là, il y a des problèmes très délicats. Mais l'Église a le droit. Mais un travail dont vous ne savez pas la finalité. Très embêtant. Moi, j'avoue que c'est pas commode de travailler dans ces conditions-là, quand on ne sait pas la finalité. On sent très bien que ce travail est beaucoup moins intelligent. Vous exécutez en pure exécution. Le Saint-Père fait des enquêtes pour savoir si telle personne peut être évêque. Il y a une enquête. Il ne faut pas croire que ça tombe du ciel comme ça. Il y a des enquêtes qui exigent le secret total. Et c'est mis. Secret pontifical. Donc, bon, et ça existe au point de vue politique aussi. Un travail secret. Il y a des complots qui sont en train de se faire. Vous êtes là à même de pouvoir exactement savoir. On vous demande ce travail secret. Dites un peu ce qu'il y en est. État de la chose. Donc, vous voyez, ça va très loin, ça. Alors vous obéissez à une autorité qui vous demande de faire un travail par obéissance. Alors à ce moment-là, le travail est transformé tout dedans par l'obéissance. Ça devient une matière à exercer votre obéissance. Et vous devez le faire avec la plus d'intelligence possible. Alors, vous voyez, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, que ce devenir du travail est un devenir d'un type unique. Et c'est ça le travail. C'est une opération, une activité humaine sui generis, qui est propre à l'homme, qui implique un devenir très caractéristique, qui implique la coopération avec une matière très vaste. Et qui va impliquer, alors c'est maintenant, on va voir, qui va impliquer, puisqu'il y a l'efficacité, et l'efficacité qu'elle n'est qu'un élément, hein. C'est un élément très important. À cause de l'efficacité, il va y avoir l'outil. Le travail, surtout manuel, va impliquer l'outil. C'est surtout manuel, puisque l'outil, c'est lié à la main. L'invention de l'outil. C'est en vue d'une efficacité plus grande. Donc, l'efficacité, c'est en vue de l'efficacité plus grande. Vous voyez comment l'efficacité peut être mesurée. Puisque vous parlez d'une efficacité plus grande. Donc, le travail est mesuré quant à son efficacité. Et la qualité du travail ne se mesure pas. C'est-à-dire son aspect spirituel, son aspect humain, son aspect volontaire. Ça, ça ne se mesure pas. C'est la qualité du travail. Ça. Tandis que l'efficacité, c'est quantitatif. Vous faites tant de choses par heure. Ça, ça se mesure. C'est très très important. Hein. Sensible propre, sensible commun. Vous voyez bien, ça, c'est la qualité des oreilles. Il y a des usines aujourd'hui qui mettent tout le point d'application sur la qualité. Ceci à cause de certaines compétitions, certaines rivalités. Au point de vue efficacité quantitative. L'efficacité japonaise est l'ennemi numéro un de tout le travail européen et de tout le travail américain. C'est l'efficacité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait stratégie, qualité du travail. La qualité du travail peut alors empêcher cette rivalité. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant, parce que ça rend le travail plus humain. Laissons les Japonais prendre le marché du monde entier, et que le marché du monde entier comprenne qu'il n'a qu'à faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et je crois qu'à ce moment-là, la primauté d'efficacité tombera d'elle-même. C'est très, très curieux. Qualité du travail qui est inhérente au travail, et celle-là, on ne la mesure pas. Quand on parle d'un ouvrier qualifié, connaît les ouvriers, on demande à chacun là où sa qualité est la meilleure. C'est très, très curieux. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, on doit y réfléchir. Parce que c'est ça, un primat de l'Europe. C'est pas l'économie. Si on s'en ramène tout à l'économie, c'est la folie et la bêtise. On est battu d'avance. Tandis qu'au niveau qualitatif, ah non. Parce que l'Europe a du métier. L'Italie a du métier. Pas du artisanal. Et on peut retrouver dans n'importe quelle chose un aspect qualitatif. C'est pas moi qui le dis. C'est certaines usines que j'ai visitées exprès parce que tout était ordonné vers la qualité. Et quand on voyait un défaut à la pièce qui était faite en série, quand ça passait entre vos mains, qu'on voyait un défaut, qu'on le signalait, on avait une prime. Juste l'inverse du travail en série quantitatif. On arrêtait la série pour montrer qu'il y avait un défaut. Et ceci pour maintenir le primat de la qualité dans l'œuvre. Ça se retrouve dans l'œuvre. Et qui fait qu'à ce moment-là, on est imbattable. Évidemment, les gens achèteront, mais verront vite que ça ne tient pas, qu'il y a des failles. Ils prendront. C'est ce qu'on dit habituellement. Hein. Que prendre des choses qualitatives, c'est encore économiquement ce qui coûte le moins cher. Dans certains domaines, pas partout. Pas le luxe, d'autres choses. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir un luxe dans l'œuvre? Il y a la qualité et le luxe. Alors, le luxe n'est pas nécessairement un super qualitatif. Non, non, c'est autre chose. C'est brillant. Tandis que la qualité est autre chose. Ça, on peut facilement le faire, la chose. Mais c'est très important de voir ça. Donc, de voir que l'outil, c'est pour intensifier l'efficacité et pour permettre à l'efficacité d'être plus rapide et plus précise. La précision et la rapidité. L'outil. Alors, l'outil, pour Aristote, perfectionne la main. Donc, on voit très bien, le travail est vu du côté manuel. C'est évident qu'un outil très bien perfectionné, ça. Il y a l'outil, et je vous avais dit aussi, la méthode. Voilà les deux aspects qui viennent permettre une efficacité plus grande. Un brevet. Vous savez, on prend un brevet. Une méthode. On invente une méthode beaucoup plus rapide. On laisse tomber certaines choses. Alors, il y a l'outil et le brevet. La méthode est extérieure. Je veux dire, il y a l'outil et la méthode. Les deux permettent une efficacité plus grande au niveau quantitatif. Alors, l'outil présente pour notre monde d'aujourd'hui quelque chose de tout à fait nouveau. Parce qu'il y a l'outil qui est le prolongement de la raison, de la logique, de la raison résonante. Alors vous avez l'ordinateur. C'est un outil tout à fait nouveau. C'est la révolution dans l'outil, si je veux dire. Parce que l'outil, vous voyez, tant qu'il était dans le prolongement, la machine, c'est encore l'outil. Mais c'est évidemment un outil très particulier qui arrive à être un outil qui devient presque un modèle, un prototype, qui devient un modèle. Et qui commande le travail des autres choses. On travaille pour réaliser un outil. Enfin, quand on dit on travaille pour une œuvre utile, l'œuvre utile par excellence, c'est l'outil. On n'aime pas l'outil pour lui-même, mais le premier silex qu'on a fait, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a inventé un outil qui permettait à un travail d'aller beaucoup plus vite. La roue. à ce moment-là, on fait un outil. Et quand l'outil devient de plus en plus perfectionné, prototype, que l'outil n'est plus seulement en vue d'une œuvre, mais que l'outil devient lui-même une fin, quand il devient prototype, à ce moment-là, on investit dans l'outil. Et le travail va être déterminé par l'outil. Là aussi, c'est quelque chose de très particulier. Normalement, l'outil ne fait que modifier le travail, lui permettre une efficacité plus grande, conditionne le travail, mais ne le détermine pas. Qu'est-ce qu'il détermine? Le projet. Alors, évidemment, le projet peut porter sur un outil très perfectionné, qui devient prototype, en vue de la réalisation de tout le reste. Un outil très perfectionné. Et alors, à ce moment-là, l'outil va déterminer tout ce qui vient après. Il a été déterminé par un projet. C'est évident. L'ingénieur a conçu telle machine. Machine, c'est un outil. C'est évident. Et la machine deviendra elle-même source déterminante pour le reste. Vous voyez, ça, c'est quand même quelque chose de très particulier dans ce que c'est que le travail, dans l'intelligence du travail. Et tout ça provient de la transformation de l'outil. C'est parti d'un travail philosophique d'aujourd'hui, ça. La philosophie de l'outil. Alors, il y a des choses très intéressantes, et ce serait très intéressant à étudier philosophiquement. Parce que, historiquement, il y a des livres qui sont très intéressants aujourd'hui sur l'historique de l'outil. De voir les âges. Premier âge de pierre, l'âge de pierre, puis après, successivement. Il y a le silex, la roue. Tout ça commandé par le feu. Mythologiquement, Prométhée, le feu qui était saisi, qui était quelque chose de divin, et dont on s'est servi pour pouvoir réaliser quelque chose. Alors, l'outil est devenu de plus en plus important. Et l'outil, devenant quelque chose de plus en plus important, l'outil va pouvoir devenir prototype et source. Et l'outil va déterminer. Lui-même a été déterminé par un projet. Et lui va déterminer dans son individuation. Ce n'est plus le projet qui détermine. C'est la réalisation. C'est le prototype. Donc vous avez un outil qui devient mesure. Il devient premier. Et il ordonne le reste. Vous allez me dire, dans l'art, c'est la même chose. Vous voyez, quand on moule une statue, il y a la statue qu'on fait directement. Puis la statue, on s'en sert comme prototype, le moule. Et à partir de là, c'est le moule qui détermine. C'est le moule qui pense. C'est le moule qui détermine. C'est plus l'artiste directement. Et ceux qui ont du goût, ceux qui ont le goût pour les œuvres d'art, savent très bien la très grande différence entre ce qui provient du moule. Très bien, c'est très beau. Mais c'est un travail second. Ce n'est pas une véritable œuvre d'art. C'est pour la communication. La véritable œuvre d'art, c'est celle qui est faite directement par l'artiste. Et les grands artistes le savent. Bon, ce sera pour le public, ça. Pour le marché. C'est plus une œuvre d'art. C'est démoulé. Ça demandera, si on veut la refaire, après la transformer. Oui, tout ça, c'est pour l'outil. Et l'outil est inventé en vue d'une efficacité du travail. Et l'ordinateur va être inventé pour aller encore plus vite. Oui, c'est toujours cette espèce de séduction de la rapidité. Extraordinaire, ça. Et cette séduction de la rapidité s'appuie sur le travail qui est un devenir, qui est un mouvement. Très, très curieux, hein, de voir que jusqu'à l'ordinateur, c'est la séduction de la rapidité du devenir. Vous faites des calculs avec une rapidité telle que si vous mettiez à les faire de vous-même, vous mettriez très 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 longtemps. Et vous n'arrivez peut-être jamais. Toute une vie humaine. Alors, on perd le contrôle. Je me souviens, c'était un jeune étudiant de Fribourg qui s'orientait vers la banque. Et évidemment, il était parti vers des stages en Amérique, dans les meilleures banques d'Amérique. Alors là, comme stagiaire, on lui demande un calcul à faire. Il voit qu'il a le temps, il essaie de le faire. Pour lui-même, sans se servir de l'ordinateur, sans se servir des règles à calculer, il le fait par lui-même. Le souci artisanal, bon suisse, artisanal. Venez, on voit très bien ça, c'est très bien, c'est très louable. Moi je lui ai dit, c'est très louable. Mais il a fait une erreur. Ce qui s'est fait engueuler, parle le patron. Vous avez fait ça avec la machine à calculer? Non. Pourquoi? Parce que j'avais le temps de le faire. Plutôt que de le féliciter, moi j'aurais félicité.